c'est Brick de Sport sur Choc FM.
On est le samedi 6 avril 2024, premier samedi. Bon oui, pour l'émission Cédric du Sport, la semaine dernière c'était le week-end de Pâques, j'étais pas là et puis il fallait un petit peu faire un petit break là et tout. Et puis il n'y avait pas de match, pas de championnat européen, donc on s'est permis une petite break, mais on est de retour avec vous Cédric Engen pour vous servir pour l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. J'ai la voix un petit peu cassée, là ça avait été un petit peu compliqué. La semaine dernière je m'étais retrouvé avec les supporters du PSG, ils ont un club, enfin fan club du PSG, ça avait été assez amusant là comme expérience, c'était la première fois depuis la pandémie que je l'ai retrouvé et puis c'était vraiment une très très belle expérience. Et après ça, j'ai attrapé un petit coup de froid et depuis, ben, j'essaye de récupérer. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi, toujours en enregistré. On est en train d'aménager là la possibilité de faire venir des invités. C'est pas toujours évident, mais il y a des personnes qui se montrent de plus en plus intéressées à le faire et on continue de travailler là-dessus. Donc, pour cette émission, en cette fin de, je ne sais même plus, ça fait plusieurs fois que je dis que c'est la fin de l'hiver. Et puis je me rends compte que ben, y a des petites tombées de, y a des gros coups de froid qui sont toujours là autour de nous. Donc on va dire, disons, ce début de printemps, on va parler des championnats européens. Il y a eu les matchs internationaux, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on va parler de certains matchs qui ont eu lieu en milieu de semaine, dans les championnats européens notamment. On va parler aussi, évidemment, des matchs qui vont avoir lieu pendant le week-end, la fin de semaine. Et puis, on va annoncer aussi la Champions League, les matchs qui vont avoir lieu la semaine prochaine. On va faire un petit flashback sur la fameuse rencontre qu'on appelle le Classico en France, qui a, pendant lequel le PSG avait affronté l'OM, à l'OM, à Marseille. Il y a des anecdotes savoureuses là-dessus. Et puis, on va finir avec la MLS, donc la Major League Soccer, donc le championnat professionnel nord-américain. En deuxième partie, j'ai promis, de le faire chaque semaine dans Cédric du Sport avec le compte à rebours vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, on va se concentrer sur l'athlétisme. On va essayer de faire comme ça de temps en temps des petits focus sur certains sports. On va se concentrer sur l'athlétisme et puis aussi sur certaines anecdotes amusantes, notamment le fait qu'il y a eu l'inauguration du centre aquatique à Paris et il y a eu un événement très 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 drôle qui s'est passé pendant cette inauguration-là. La deuxième partie, évidemment, donc le retour chez les Jeux Olympiques, les grandes ligues nord-américaines avec la NBA, avec la Ligue nationale de hockey, c'est bientôt les playoffs. Et là, malheureusement, constat est implacable. Les équipes de Toronto se comportent très, 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 très mal. On est le samedi 6 mars, mais au moment où cette émission est enregistrée, ben, la veille, il y a eu des équipes de Toronto qui ont toutes été battues. Pour la 11e fois, toutes les équipes professionnelles de Toronto ont été battues le même jour. L'équipe de basket, l'équipe de hockey et l'équipe de baseball. C'est vraiment malheureux, mais c'est des choses qui arrivent assez fréquemment dans cette bonne vieille ville Rennes. Donc, après avoir parlé des ligues majeures, on va dire un mot sur les Blue Jays, puisqu'ils ont commencé leur saison et ce n'était pas sous les meilleurs auspices. Donc, c'est Cédric Engen pour Cédric du Sport avec vous. Toujours un plaisir d'être sur Choc FM. Allez, pour les matchs qui ont eu lieu en milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Liverpool dans le championnat d'Angleterre qui affrontait Sheffield United, victoire nette et sans bavure, 3-1. Chelsea qui a affronté Manchester United, une grosse affiche d'équipes qui ont marqué le début des années 2000 en Angleterre. Et là, avalanche de buts, 4-3. C'était 3-3 jusqu'à la 80... Non, 3-2 pour Manchester United jusqu'à la 99e minute. Donc, ils menaient 3-2. Et coup sur coup, quasiment, ils ont encaissé 2 buts. Donc, 1 but sur penalty de Palmer. Et 1 but encore sur une action, là, bien réussie de Palmer. 4-3, c'est incroyable. La faiblesse de la défense de Manchester United. Dans le championnat d'Espagne, en milieu de semaine, c'est Valence qui s'est imposé par la plus petite des marges face à Grenade. 1-0. Assez prévisible, puisque Grenade est 19e du championnat, alors que Valence est 7e. Il n'y a pas eu de grosse affiche dans les grands championnats. Un mot rapide sur les matchs de Coupe de France qui ont eu lieu, mais évidemment, en France. Il y a Lyon qui a affronté Valenciennes, donc victoire tranquille, 3-0, mais avec un arbitrage catastrophique de Madame Stéphanie Frappard. Il va falloir se pencher sur le problème des arbitres en France. D'ailleurs, lorsqu'on fera le petit focus, le petit rappel sur le Classico OM-PSG, il y a eu aussi des décisions arbitrales, là aussi assez contestables. Alors, donc, j'avais dit, en Coupe de France, c'était Lyon qui s'était imposé face à Valenciennes 3-0. Valenciennes qui végète dans les bas-fonds du championnat de Ligue 2. Donc, c'était leur seule opportunité de sauver un petit peu leur saison. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, en finale, Lyon va affronter qui ? Il va affronter le PSG, qui a réussi décidément une semaine parfaite après la victoire à Marseille. 2-0 à 11 contre 10. Et encore une fois, on va revenir là-dessus. Ils se sont imposés par la plus petite marge, 1-0, face au Stade Rennais qui les visitait au Parc des Princes. Donc, un but de Mbappé. Après avoir raté un pénalty, il a mis un but un petit peu chanceux là, un but avec des ricochets. Mais l'essentiel, c'était de gagner ce match-là. Donc, le vendredi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un match de qualification pour l'Euro. Chez les féminines, donc c'est la France qui va affronter l'Irlande, alors que en Ligue 1, c'est déjà le retour de la Ligue 1, puisque Lille va affronter Marseille. Et là, Marseillais n'ont décidément plus droit à l'erreur, parce qu'ils sont à 7 points des Lillois. S'ils perdent ce match-là, c'est fini le rêve d'une place européenne. En Allemagne, il y aura une affiche intéressante, puisque l'Eintracht Francfort va affronter le Werder de Brême. En Italie, la Salernitana va affronter Sassuolo. Et il n'y aura pas d'autres gros matchs au niveau des championnats européens. L'essentiel des matchs, souvent, c'est le samedi et le dimanche, comme vous le savez. Et là, le samedi, Lens va affronter Le Havre. Lens qui est actuellement 6e contre Le Havre qui est 15e. Duel déséquilibré, mais bon, qui sait, peut-être que les Havrais vont retrouver un peu de fierté et essayer de résister au Lensois. Alors que le Paris Saint-Germain, ça c'est vraiment un duel très, très, très déséquilibré. Le Paris Saint-Germain qui va affronter Clermont qui est avant-dernier, dernier tout simplement, du championnat de France, sont quasiment condamnés à être relégués. Mais qui sait, avec un sursaut de fierté, peut-être qu'il pourrait faire quelque chose au Parc, mais j'y crois pas beaucoup. En Ligue 2, il y aura quelques affiches, quand je regarde comme ça, ah non, il n'y aura pas d'affiches du tout. Bon, peut-être Caen contre Bordeaux, donc ça, c'est deux anciens pensionnaires du championnat de ce qu'on appelait la première division, ou Guingamp contre Amiens. En Angleterre, beaucoup de gros matchs. Crystal Palace face à Manchester City. City qui est actuellement troisième, derrière Liverpool et Arsenal. Wolverhampton va affronter West Ham. Fulham va affronter Newcastle. Luton va affronter Bournemouth. Aston Villa va affronter Brentford. Everton va affronter Burnley. Ça, c'est un duel de mal classé, puisque Everton, les Blues, sont 16e, alors que Burnley est 19e. Et enfin, c'est Brighton qui va affronter Arsenal. Brighton qui reste une équipe très dangereuse, là, avec leur coach, je pense, d'origine italienne, Robert De Zerbi. Et Arsenal qui essaye vraiment d'arracher le titre de champion. Le champion d'Angleterre, donc il reste à seulement un point de Liverpool. L'exploit est possible pour les Gunners. En Espagne, ce sera la finale de la Coupe du Roi. Ce sera l'Athletic Bilbao contre le Mallorca. Ça promet d'être intéressant, cette rencontre-là. Je vois qu'il n'y aura pas de grosse affiche en Allemagne. De toute façon, en Allemagne, je le confirme depuis que je présente cette émission de Cédric du Sport. C'est seulement cette année que le championnat d'Allemagne, il y a un peu de suspense, puisque l'Union Berlin va affronter le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen invaincu depuis le début du championnat. Ce que Xabi Alonso, l'ancien milieu de terrain international espagnol, fait en tant que coach avec cette équipe-là, c'est absolument incroyable. Invaincu depuis le début de la saison. Ils sont sur 40 matchs sans défaite. C'est absolument exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et derrière, c'est le Bayern qui avait été battu à domicile par Dortmund pour la première fois en plus de 10 ans. 2-0, il arrive à affronter Heidenheim, et je pense que Heidenheim va payer le prix pour la défaite subie par le Bayern Munich la semaine dernière, alors que le Borussia Dortmund, après son bel exploit sur l'Olympiastadion, qui va affronter le VfB Stuttgart, qui est actuellement 3e du championnat allemand, la Bundesliga. Dans le championnat d'Italie, le samedi, c'est l'AC Milan qui va affronter Lecce, l'AS Roma qui va affronter la Lazio de Roma. Donc ça, c'est le duel, le derby romain. Alors que Empoli va affronter le Torino. Je ne vois pas d'autres affiches notables dans les championnats européens. On va aller directement à dimanche. Dimanche, qu'est-ce qu'on aura ? On aura Brest contre Metz, donc le deuxième contre le 17e. Brest vraiment qui nous surprend là. Ça commence à devenir vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de faire. S'ils gagnent, je pense il reste 6 journées de championnat en France. S'ils gagnent au moins 3 des 6 derniers matchs, ils sont assurés d'aller en Champions League. Imaginez Brest, le stade brestois. Pouf! En Champions League. Je ne sais même pas s'ils ont le stade aux normes pour pouvoir accueillir des rencontres de Champions League. En tout cas, tant mieux pour leur coach, mais je crains le naufrage la saison prochaine s'ils arrivent vraiment à arriver en Champions League. En tout cas, tant mieux pour eux. Ils auront mérité d'arriver en Champions League. Donc, Brest va affronter Metz. Montpellier va affronter Lorient. Toulouse va affronter Strasbourg. Ça, c'est vraiment un duel très équilibré puisque Toulouse est 11e alors que Strasbourg est 12e. Reims va affronter Nice. Monaco va affronter Rennes. Ça, c'est un duel qui sent la poudre puisque Monaco est 3e. Toujours à l'affût pour essayer de chipper la place à Brest alors que Rennes est 8e. 8e juste derrière l'Olympique de Marseille. Et vraiment, ils veulent se positionner pour une place européenne. Et pour finir, la journée du dimanche, du 7 avril 2024, c'est Nantes qui va affronter Lyon. Ça, c'est un duel de milieu de tableau puisque Nantes est 14e. Et là, ils ont enregistré le retour de leur coach fétiche Antoine Comboiré qui a remplacé l'évincé Jocelyn Gourvennec, donc deux anciens de la maison nantaise, et qui va affronter Lyon. Lyon qui est 10e, qui n'a plus à espérer une place européenne, mais qui en même temps qui veut essayer de faire quelque chose puisqu'ils sont en finale de Coupe de France. Donc voilà, ils vont gérer tout simplement la fin de saison, ces chers Lyonnais. Dans le championnat d'Angleterre, c'est Manchester United qui va affronter Liverpool. Là aussi, ça sent la poudre. Là, Liverpool veut vraiment gagner. Manchester United ne voudra pas perdre. Je pense que si Liverpool joue vraiment à son niveau, Manchester peut vraiment exploser en éclat. En tout cas, tant mieux pour les supporters des Reds de Liverpool. Sheffield United, le 20e, qui va affronter Chelsea, le 10e, alors que Tottenham, le 5e, va affronter Nottingham Forest. Donc ça, c'est pour les rencontres dans les championnats européens. On va essayer d'aller directement en MLS. Oui, en MLS, donc le championnat nord-américain. Déjà, les classements à l'ouest, c'est le FC Cincinnati qui est pour l'instant en tête avec en 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite jusqu'à présent. L'Inter Miami qui fait un très beau début de saison avec en 7 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, mais c'est déjà 10 buts encaissés. 10 buts encaissés en 7 matchs, c'est pas très bon ça, niveau défense. Il y a des soucis là-bas du côté de l'Inter Miami. Mais bon, c'est l'équipe de Messi. Il faut croire qu'ils ont tout misé sur l'attaque. Troisième, c'est New York Red Bull. Quatrième, Columbus Crew. Cinquième, Toronto FC, qui fait un début de saison assez intéressant. 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Bon, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Mais sur le dernier match, je pense sur une défaite à domicile, il va falloir se ressaisir assez vite. Atlanta United est 6e. Philadelphia Union est 7e, DC United est 8e, Charlotte FC 9e, le CF Montréal, après avoir réussi un début de saison parfait, ça patine maintenant. Ils sont sur 2 défaites consécutives, donc en 5 matchs, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire, puisque déjà 8 buts encaissés en 5 matchs, c'est pas bon du tout ça. Va falloir resserrer les boulons. Donc le 11e c'est Nashville, 12e Chicago Fire, 13e Orlando City, 14e New York City et le 15e c'est le New England Revolution. On va aller dans la conférence ouest avec le Los Angeles Galaxy qui est en tête en 6 matchs, 3 victoires et 3 nuls. Suivi par Vancouver, les Whitecaps, qui sont en 5 matchs à 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Le Real Salt Lake, 3e. Minnesota United, la nouvelle équipe d'expansion, 4e. 5e, le Houston Dynamo. 6e, le Sporting Kansas City. 7e, le Colorado Rapids. 8e, le Portland Timbers. 9e, le Los Angeles FC. 10e, le St. Louis City. 11e, Austin FC. 12e, le FC Dallas. Et les deux derniers, ce sont San Jose Earthquake et le Seattle Sounders. Seattle, c'est vraiment, vraiment, vraiment surprenant puisque en 5 matchs, 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Seattle, c'est une terre de soccer en Amérique du Nord. C'est vraiment, je pense qu'ils étaient au minimum 2 fois champions. Ils ont joué 2 finales consécutives au milieu des années 2010, enfin justement au Toronto FC. Je suis assez surpris de voir qu'ils aient commencé leur championnat de façon aussi catastrophique. On ne parle pas souvent des statistiques individuelles dans la MLS, mais on va le faire là pour une fois. Niveau des buteurs, c'est pas mal. Hein? En 6 matchs, Lewis Morgan des New York Red Bulls, 6 buts en 6 matchs, suivi par Giumakis, je pense qu'il est grec. Donc, ah oui, avec un nom. Oui, c'est forcément, il est grec. Giakoumakis, ouais, c'est pas mal ça. Donc, 4 buts, non, 5 buts en 4 matchs, suivi par Jovetic de Los Angeles Galaxy. 5 buts en 6 matchs, Arango, Suarez, lui Suarez, on connaît bien ce joueur-là, avec 5 buts en 7 matchs, Messi déjà bien positionné, là 3 buts en 3 matchs, mais apparemment il a raté déjà beaucoup de matchs. On va donner un peu le calendrier des matchs pour la fin de semaine justement en MLS, puisque ça promet aussi d'être assez intéressant dans ce sens-là, surtout voir les équipes canadiennes. Et l'équipe de Messi, puisque je vois que le dimanche soir, l'Inter Miami va affronter Colorado Rapids, les Vancouver Whitecaps, donc duel canadien qui va affronter le Toronto FC. J'essaie de voir le match de Montréal. Ce sera face aux Seattle Sounders. Il va falloir que les Montréalais puissent justement profiter de cette opportunité-là pour se rattraper assez rapidement au classement, puisque justement Seattle, comme je le disais tout à l'heure, a très 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 mal commencé sa saison. Je vais essayer de retrouver le calendrier justement, ben, puisqu'on parle de grosses confrontations là. Il y a la Champions League qui revient la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, à partir du 9 avril. Donc le 9 et 10 avril, déjà rappelé, les qualifiés, c'était le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid, Arsenal et le FC Barcelone. Donc toutes ces 8 équipes-là se retrouvent pour les quarts de finale qui auront lieu entre le 9 et le 17 avril. Donc le 9 avril, je pense que c'est le mardi. Oui, c'est ça. Donc le mardi, Arsenal va affronter le Bayern Munich. Là, ça promet d'être accroché, là, ce match-là. On se rappelle que Arsenal, sur les dernières opportunités en Champions League, ça avait très très mal tourné. Notamment une déroute à domicile, je pense, face à la Roma, je pense. Ouais. Le même jour, le 9 avril, le mardi, c'est le Real Madrid qui va affronter Manchester City. Ça, c'est vraiment l'affiche attendue, très 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 attendue. Ces deux équipes, les deux derniers vainqueurs, je pense, de la Champions League. Donc, en 2022, si je me rappelle bien, c'était le Real Madrid, leur dernier titre. Et en 2023, c'était tout simplement Manchester City. Donc, ça, c'est vraiment une affiche rêvée. C'est comme une finale avant la finale. L'Atlético Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund, ça, ce sera le 10 avril, donc le mercredi. Et enfin, affiche très attendue aussi, ce sera entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, on se rappelle la fameuse histoire de la remontada. Bon voilà, les Marseillais nous ont fait beaucoup de bruit là-dessus, beaucoup parlé de ça, ben au final, ben voilà, ils ont pris une correction à domicile face au Paris Saint-Germain. Justement pour parler de ce match-là, je vais vous relater mon après-midi. Donc, j'avais eu une conversation avec le Paris Saint-Germain, fan club de Toronto. Je connais, je les salue là. Il y a Olivier de Bréjas qui est membre des animateurs de Choc FM. Salut à toi mon ami. Charles Shaw qui est l'un des cofondateurs de PSG Fan Club de Toronto, qui est entre autres professeur d'économie, je pense, à York University. Il faudra que je l'invite en studio. Franchement, son histoire est très intéressante aussi sur ce qu'il fait au niveau professionnel et puis en privé aussi. C'est un grand, grand, grand fan du Paris Saint-Germain. Lui, il a été au parc je ne sais combien de fois. Moi, je n'ai jamais pu y aller là. La dernière fois que j'ai vécu en France, je ne vivais pas. Je vivais à Clermont, il n'y avait pas de TGV, donc je n'ai pas eu l'opportunité justement d'aller au parc. Mais je vais essayer de le faire comme ça la prochaine fois que j'irai en France. Quoi. Si je peux, je vais essayer de le faire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, relater mon après-midi. Donc, on est allé dans un pub là, avec mes garçons, dans un pub, je ne sais pas si ça s'appelle le Firkin, donc pub du style anglais, tout ça, sympa et tout. Le dimanche après-midi, il faisait froid, il faisait quand même assez froid. Mais l'ambiance à l'intérieur du pub, c'était vraiment sympa. Et là, ma grande surprise, bien réunis, là, des supporters du PSG, des supporters de Marseille, là, en toute cordialité et tout. Et le match a bien commencé, bon, notamment pour le PSG, avec une occasion tout de suite là de, comment il s'appelait le joueur là, Fabien Ruiz, qui envoyait une balle dans l'espace alors qu'il aurait pu mettre juste un petit coup de pied pour le faire rentrer. Après ça, bon, le match, les Marseillais étaient assez agressifs au début du match. On sentait beaucoup de motivation chez eux. Ben évidemment, c'était devant leur club, devant leur public, avec une audience, avec, je pense, près de 70 000 spectateurs, chauffés à blanc, super motivés. Donc, c'était vraiment le cadre idéal, quoi. Cependant, la pluie posait des problèmes aussi bien aux Parisiens qu'aux Marseillais. C'était un petit peu compliqué dans ce sens-là. Et c'était bien de voir ça, c'était bien. Jusqu'à ce que l'arbitre, le fameux, c'est quoi son nom? Stéphane Bien, je pense, quelque chose comme ça, commence à faire son cirque. Ok. Carton jaune sur le défenseur du PSG. Normal. Parce que bah, il avait fait obstruction sur un attaquant de Marseille. Mais ensuite, sur une remise, une passe en profondeur, un jeu épaule contre épaule entre l'attaquant gabonais de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, et le défenseur parisien, épaule contre épaule, ben le défenseur parisien était plus costaud. Donc, il a mis un solide coup d'épaule et Aubameyang s'est laissé aller, puisque de toute façon, la pelouse était glissante. Et là, à la surprise générale, carton rouge direct. Carton rouge direct pour le défenseur du PSG. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? J'étais choqué comme beaucoup de gens, évidemment, oui, supporters du PSG, mais carton rouge direct. Pourquoi? Parce que soi-disant, il était en position de dernier défenseur et qu'il allait annihiler une occasion de but. Une occasion de but à 50 mètres. À 50 mètres du but, le long de la ligne de touche. Mais où est-ce qu'il a vu ça, cet arbitre? C'est cru dans les jeux de PlayStation ou, je ne sais pas, de Xbox? Décision qui aurait été plus logique, ça aurait été de donner un deuxième carton jaune au défenseur parisien. Et puis voilà, ça faisait du sens. Deux cartons jaunes égale un carton rouge, il sortait et puis il n'y avait pas à discuter. Mais de là à lui donner un carton directement, franchement, c'était ridicule. Et ça s'est pas fini là. Ça s'est pas fini là, puisque quelques moments plus tard, ben, le match a continué comme ça avec beaucoup d'intensité, avec les attaquants marseillais qui essayaient de se battre, qui essayaient de marquer. Mais j'ai franchement, c'était l'une des premières fois que je voyais Marseille cette saison. Mais franchement, je regrette pas de les avoir pas regardés avant. Mais ils sont d'une maladresse, c'est assez effrayant les attaquants marseillais. Ils tiraient tout sauf là où il fallait. Et ils tiraient beaucoup sur le gardien du Paris Saint-Germain. Comment il s'appelle, Donnarumma, qui était quasiment en état de grâce, quoi. Il y a même eu une occasion où il est quasiment au sol et au lieu de ben, tirer un petit peu en hauteur ou à mi-hauteur, il tire sur sa main, les attaquants de Marseille. C'était presque drôle de voir ça. En tout cas, le PSG, sur un contre, a ouvert le score. Un but du petit milieu de terrain portugais, Vitinha. Jolie petite célébration en passant. Et puis là, bon, on s'est dit, les Marseillais vont essayer de revenir. Ils ont marqué un but. Malheureusement pour eux, l'un des attaquants marseillais était hors jeu, donc sur la trajectoire du ballon, mais derrière le gardien du PSG. Donc, décision logique, là, même si beaucoup de Marseillais râlent. Continuez de râler, pleurer, ça ne vous donnera pas la victoire. Bref. Donc, égalisation annulée de Marseille. Et ensuite, le match a tourné comme ça un petit peu en rang. Surprise générale, à la 63e minute, Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, décide de sortir Mbappé. Mbappé qui continue, il fait sa spéciale. Il est là, il râle et tout ça, machin. Bref, il y en a marre de le voir faire ça. Tant mieux dehors. Et quasiment sur la suite, l'attaquant, pardon, le défenseur, avant ça, avant le but du Paris Saint-Germain, c'est le défenseur marseillais qui s'était blessé, Mbemba. Bon, on espère bonne guérison pour lui. Le match a continué comme ça pendant une vingtaine de minutes et le PSG était toujours bien placé là en contre-attaque et logiquement sur une autre contre-attaque à la 85e minute, deuxième but. Et de façon vraiment surprenante, comment les Marseillais qui étaient en supériorité numérique pendant plus de 60 minutes étaient sur les contre-attaques en infériorité numérique. C'est là, c'est le foot pro, c'est une question de talent, mais c'est aussi une question de mental. si vous ne montrez pas suffisamment de détermination, vous vous trouvez dans une telle situation. Donc, deuxième but du PSG, emballé, c'est pesé. La célébration de, comment ça s'appelait, Gonzalo Ramos, vraiment très drôle. Là, il montre au public, il veut les entendre. Le petit geste comme Gurner et tout ça, c'était un peu limite là. Mais bon, ça fait partie, chambré, ça fait partie de tout ça. Donc, voilà quoi, c'était comme ça le déroulé de ce match-là. Je suis assez surpris des réactions des Marseillais parce que il faut se le dire là, leur club n'a vraiment pas été au niveau. Qu'il est mal prévu, ça se comprend, mais de là aller tout dire que la défaite repose essentiellement sur les décisions de l'arbitre, je suis vraiment vraiment surpris de ce manque de fair play là. Leur équipe ne s'est montrée tout simplement pas au niveau, et je le dis pas juste parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain, mais parce qu'il faut voir les faits. On avait l'impression que ils auraient pu jouer là pendant 24 heures, ils auraient pas réussi à marquer. Donc c'est une réalité, et puis ils ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes quoi. Donc voilà. C'est ainsi que ce match-là s'est terminé avec une victoire du Paris Saint-Germain 2-0 sur le terrain de Marseille. Et ça fait maintenant officiellement plus de 10 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à battre le Paris Saint-Germain dans son propre stade. C'est comme ça que ça s'est terminé ce match-là et c'est comme ça que se termine cette première partie de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. En deuxième partie, je vous ai annoncé qu'on va parler des ligues nord-américaines. Restez avec nous pour la deuxième partie de Cédric du Sport. Dans, disons, 2 minutes, pour l'instant, les publicités pour supporter la radio 100% Toronto, 100% francophone. On se retrouve dans quelques instants.